Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
Tu vois, ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais à faire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à l'ouvrage Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, apparaître aux éditions Leitmotiv. Durant cette émission, vous allez pouvoir écouter un entretien avec son auteur, David Da Silva.
Hey!
qu'on constate, c'est que quand on voit les films de Stallone, à côté, on peut lire l'histoire contemporaine des États-Unis, mais aussi sa propre vie à lui, avec ses fêlures du moment et avec ses forces du moment. Enfin bon, c'est ça qui est passionnant aussi dans son cinéma.
Ah oui, oui, bah le personnage de Rocky, c'est clairement le double fictif de Stallone. Hein. C'est, on peut voir toute la carrière de Stallone à travers la vie de Rocky. C'est ses échecs, ses succès. Non, c'est clairement un auteur. Moi, j'ai mis ça aussi en avant dans mon livre. C'est quelqu'un. On retrouve toujours les mêmes thèmes qui reviennent, notamment la grande thématique de sa filmographie, c'est perdre en gagnant. Et non, moi aussi, je trouve que c'est un auteur très très intéressant. Et j'étais surpris qu'il y ait pas de livre en France qui analyse de manière sérieuse sa filmographie.
Et d'ailleurs, quel a été ton déclic, avant de parler de ton déclic pour écrire ce livre, quel a été ton déclic, toi, pour envers Stallone? Quel est le film qui t'a fait basculer vraiment, qui t'a fait prendre conscience que Stallone, c'était un type qui était un peu plus qu'un simple gros bras, quoi?
Moi, je dirais que c'est le premier Rocky, en fait. Par mes origines sociales, moi, je viens d'un milieu modeste, fils d'immigrés, et en fait... je m'étais totalement identifié, quand j'étais jeune adolescent, à ce personnage-là. C'est-à-dire la difficulté, se prouver à soi-même qu'on est capable de se dépasser. Donc le premier Rocky, ça a vraiment été un gros déclic. J'ai beaucoup aimé aussi le premier Rambo, parce que le premier Rambo, c'est la même trajectoire finalement que Rocky. C'est un loser qui se prouve à lui-même qu'il est capable de se dépasser pour sortir d'une situation compliquée. Et ensuite, avec l'âge, j'ai énormément apprécié Fist. Je trouve que c'est un film oublié de la filmographie de Stallone, alors que c'est un film vraiment très très intéressant. Limite un film d'extrême gauche, ce qui est surprenant aux États-Unis. Donc oui, c'est pour moi le vrai point de départ de ma passion pour Stallone. Je dirais que c'est le premier Rocky.
Et d'ailleurs, le Fist, toi, tu en parles. Moi, j'aime beaucoup aussi ce film de Norman Jewison, et tu en parles très bien dans le livre. Et ce qui frappe en fait dans le film, toi, tu expliques un peu. Enfin, tu émets comme hypothèse que l'échec du film, parce que c'est un film qui a connu un échec cinglant, serait dû au fait qu'effectivement, on présente les syndicalistes comme ayant recours à la mafia, mais c'est-à-dire que face aux nervis du patronat, ils sont bien obligés d'avoir recours à ce qu'ils peuvent trouver, eux, comme gros bras, et en l'occurrence, là, sociétalement, ce qui se présente à eux, c'est la mafia, quoi.
Voilà, et en fait, parce que généralement, ils ont même grandi dans les mêmes quartiers que les gens qui sont devenus gangsters. Ils viennent du même milieu social, en fait. Les ouvriers, les gangsters, c'est un peu là. Ça vient des mêmes quartiers. Et oui, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'en fait, ça met en évidence que l'État américain n'était pas assez présent pour protéger les ouvriers contre la force du capital. Donc c'est très intéressant, surtout quand on a qualifié Stallone de réganien. Quand on sait que la politique de Reagan, c'était moins d'État, le moins d'État possible, le moins d'intervention d'État possible dans la vie des gens, là, Stallone, qui a coécrit le scénario, dit clairement que non, l'État doit intervenir pour protéger les faibles contre les puissants. Donc, moi, je trouvais ce film-là vraiment, vraiment admirable. Et même Stallone, hein, c'est un film qu'il apprécie beaucoup. Norman Jewison, que j'ai interviewé, il m'a dit que Stallone considère que c'est sa meilleure prestation à l'écran. Et moi aussi, je pense que c'est avec Copland et le premier Rocky, je pense aussi que c'est la meilleure prestation de Stallone.
Oui, mais c'est vrai que... c'est vrai, pour revenir justement sur l'aspect... parce que le déclic qui t'a poussé à écrire le livre, on l'a bien compris, c'est la façon dont Stallone était considéré. Le contenu du livre, on le comprend bien, c'est-à-dire que t'essayes de réhabiliter Stallone en tant qu'humaniste. D'ailleurs, moi, je voulais te féliciter parce que le livre, en fait, c'est pas une thèse d'étudiant. Enfin, c'est pas un truc lourd à lire, ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Franchement, je l'ai lu hyper rapidement, quoi. J'étais même frustré, je le trouve trop court, d'ailleurs.
Ouais, on me le dit souvent, on me dit souvent, on en voulait plus. Et c'est vrai que j'ai mis certains films de côté. Je parle pas de Cliffhanger ou de Demolition Man. Parce que moi, de mon point de vue, je les trouvais pas très intéressants dans la thèse de mon livre. Et oui, l'autre aspect que j'aime, c'est que c'est un livre qui touche toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que là, j'ai eu des compliments de profs d'université de cinéma, notamment Régis Dubois, qui a aussi signé pas mal d'ouvrages sur le cinéma américain. Et aussi, j'ai reçu des mails de gens qui travaillent à l'usine, qui me disent qu'ils lisent rarement des livres, mais qu'ils ont beaucoup apprécié lire mon livre, parce que c'est un livre de cinéma où je dis pas mal de choses, mais de manière simple. Donc c'est très accessible. Et on me dit souvent aussi qu'en 2-3 jours, on a fini la lecture.
Mais c'est bon signe, hein, généralement, hein, de toute façon, quand on dévore un livre.
Oui, oui, voilà. Je préfère ça que le contraire, qu'on me dise qu'on a mis 2-3 mois à le lire parce que on avait du mal à se replonger dedans. Là, en général, quand on a commencé à le lire, on a envie de connaître l'analyse jusqu'au bout. Et c'est quand même un livre qui fait plus de 200 pages, donc c'est pas non plus un... C'est une analyse quand même assez poussée. Je dis pas mal de choses intéressantes et je fais référence à pas mal d'auteurs. Il y a pas mal de notes en bas de page. Donc,
D'ailleurs,
voilà, c'est un livre. Je pense que c'est un livre poussé mais très accessible.
Sans vouloir faire peur au lecteur et potentiel, parce qu'il faut le lire, parce que justement c'est très accessible. Mais moi je dirais presque que c'est presque un traité de philosophie ou de sociologie sur le cinéma de Stallone, quoi, et sur Stallone lui-même.
Vous écoutez David Da Silva au micro de Culture Prohibée.
C'était en fait placer même Stallone au centre de l'histoire politique des États-Unis, de l'histoire du cinéma américain à partir des années 70, parce qu'on se rend compte que finalement Stallone représente parfaitement bien les changements idéologiques et la mutation même du cinéma des années 70, cinéma contestataire qu'on pourrait qualifier de gauche, et dont les représentants chez Stallone, c'est le premier Rocky, Fist, La Taverne de l'Enfer aussi, qui est un très bon film. Les années 80, où il y a une totale mutation avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, les films qu'on qualifie de réganiens, c'est-à-dire que le côté social est quasiment absent des films, même si on en retrouve un petit peu chez Stallone, mais on voit la grande mutation avec Rocky IV, qui est complètement différent du premier Rocky, même de manière formelle, c'est-à-dire les plans sont très courts, le film est très court, le rythme il est très rapide. Politiquement, c'est intéressant de voir comment la lutte du communisme s'est immiscée dans les films de Stallone, dans Rocky IV ou Rambo II, et comment à partir des années 90 et la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, là où on attendait Stallone proche encore des républicains ou des néoconservateurs à mettre en avant le danger de l'islam, Stallone est complètement revenu vers le cinéma finalement de ses origines, avec des films quand même où le social est important, avec même si c'est pas un très bon film, Over the Top, mais clairement en évidence le rapport de classe qu'il y a entre le camionneur et un bourgeois. Mmh. Et haute sécurité aussi, où il, c'est un film vraiment humaniste, où il montre de manière très... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film-là. Il montre de manière très belle les détenus d'un pénitencier. Et il revient aussi dans Rocky V, où le personnage revient dans son quartier d'origine, où il est de nouveau avec les petites gens, où il y a un vrai retour de Stallone, finalement, au Stallone qu'on aimait, au Stallone humaniste, qui s'était un peu perdu dans les années 80, notamment à cause de sa relation avec Brigitte Nielsen, qui l'a un petit peu détourné, on va dire, de la ligne dans laquelle il s'était mis plutôt sociale. Et donc oui, moi je trouve que Stallone, c'est un personnage qui représente très bien toutes ces mutations, que ce soit politique ou cinématographique aux États-Unis.
Oui, d'ailleurs, c'est vraiment ça la force de ton livre. Et d'ailleurs, du coup, ça m'évoque plein de questions, tout ce que tu viens de dire. Tu viens de dire beaucoup de choses. Et il y a plusieurs choses. D'abord, il est vrai que tu fais référence au niveau de l'Hollywood. Moi, je pense qu'on peut dire que quand même, Stallone, dans ses premiers films, en particulier à travers Rocky 1 et Rambo 1, s'inscrit complètement dans le nouvel Hollywood. Et d'ailleurs, toi, tu réfutes un argument de Peter Biskind, qui a écrit donc le livre Le Nouvel Hollywood, qui a un peu théorisé tout ça, qui accuse Rocky 1 d'être un film raciste, en fait, quoi. C'est-à-dire, on va mettre la pâtée avec Cassius Clay, qui agace les classes dominantes, la bourgeoisie blanche américaine, qui refuse d'aller au Vietnam, qui revendique sa négritude, son islam. Et toi, tu démontes un peu ça, parce que tu démontres qu'en fait, le Rocky 1 n'est pas un film raciste. C'est la thèse du bouquin, quoi, entre autres.
Oui, voilà. Moi, je montre clairement qu'en fait, même si c'est vrai que la question raciale est très présente aux États-Unis, ça, c'est clair. Mais en fait, je pense que Stallone, ce qui l'intéresse, c'était le point de vue social, en fait. Et je pense que cette lecture-là est fausse. Parce que bon, c'est un exemple que je mets dans mon livre. C'est par exemple au début du film, l'entraîneur Mickey va renvoyer Rocky de la salle de boxe et le casier est donné à un autre boxeur. Et ce boxeur est noir. Donc finalement, ce qui arrive à Rocky aurait pu finalement arriver aussi à un autre boxeur de la même condition sociale que lui, peu importe la couleur de peau. Et oui, je dis aussi que finalement, les promoteurs qui manipulent Rocky Balboa, finalement, il y a des blancs et des noirs. Parce qu'Apollo Creed, on voit très bien que c'est un grand businessman. Et il utilise Rocky alors qu'il sait très bien que c'est un perdant. Donc cette thèse de dire que le film est raciste, moi, je l'ai toujours trouvé extravagante. Notamment parce que moi-même, j'ai fait de la boxe quand j'étais plus jeune, et il y avait énormément de boxeurs, de jeunes boxeurs de mon âge de couleur qui adoraient Rocky. Donc pour moi, c'était un film, c'était une analyse complètement fantaisiste.
Oui, de toute façon, le en vrai, Rocky, c'est pas du tout, enfin, pour moi, c'est pas un film raciste, c'est un film sur le dépassement de soi, sur le rapport de classe et sur le fait qu'on peut effectivement même en étant vaincu, c'est de toute façon, toute sa filmographie est définie des Rockiens, en fait, quoi. Même à la limite, dès la taverne de l'enfer, quoi. Parce que tu en parles d'ailleurs dans ton bouquin avec la course sur le toit et puis le billet à la fin. Ouais. C'est toute la thématique de son cinéma et de tous ses films. C'est effectivement que même dans la défaite, il faut être digne et voilà, quoi. C'est une leçon d'humanisme, Rockien, plutôt.
Ah oui, tout à fait. C'est même une grande leçon. C'est perdre mais en gagnant, donc encore la grande thématique de Stallone qu'on retrouve dans plusieurs de ses films, c'est perdre aux yeux de tous, mais pour soi-même, on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé, donc finalement on a gagné, peu importe si ça nous apporte de l'argent ou pas, ou de la gloire ou pas, c'est le dépassement de soi, et c'est ce point-là qui, enfin, de mon point de vue, intéresse principalement tous les fans de Stallone. C'est le dépassement de soi, la difficulté, surpasser la difficulté. Et Stallone, que ce soit dans ses films ou même dans sa vie personnelle, il a toujours démontré cette volonté à se surpasser et à dépasser toutes les difficultés qu'il a eues physiquement et aussi d'un point de vue social, car il vient d'un milieu très pauvre et il a réussi à devenir une grande star d'Hollywood.
Écoutez David Da Silva, auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, au micro de Culture Prohibée.
Stallone, il naît quand même avec beaucoup de handicap, il a une paralysie faciale, il est plutôt d'une petite taille, il est dans une famille ultra modeste et la vie ne se privera pas de lui jouer des tours. Mais on se rend compte que c'est un type pas comme les autres, déjà parce qu'il commence sa carrière par un film érotique soft, en fait. Et contrairement à plein d'autres stars, il a jamais essayé de le cacher ou de racheter les droits de ce film, quoi. Il s'en fout, quoi. Il a eu une période de vache maigre et puis c'est tout, quoi.
Oui, il considère même ce film comme justement la preuve qu'il y a eu une période dans sa vie où il a été obligé de faire ça pour bouffer, quoi, tout simplement. Donc je le prends d'ailleurs comme exemple pour montrer que c'est quelqu'un qui a toujours eu peur de retomber dans cette pauvreté-là, parce qu'apparemment c'est vraiment quelqu'un qui a connu la faim, enfin le problème de savoir ce qu'il allait manger le soir, etc. Donc oui, il considère ce film-là comme le symbole d'une période de sa vie que finalement il veut pas oublier.
Et d'ailleurs, dans les bonus de Expendables Il y a plusieurs. C'est ce que tu viens de me dire qui m'évoque, qui me rappelle les bonus d'Expandables, hein, tout ce que tu m'as dit là depuis le début de l'interview. C'est, il y a deux choses. Il y a un moment, il parle effectivement du paradis et de l'enfer, et il dit de toute façon, le paradis et l'enfer, on ne sait pas si ça existe. Donc faisons tout pour que notre passage sur Terre, ça soit le paradis. Il le dit, ça, dans les bonus à un moment. Et il dit autre chose aussi, moi, qui me frappe. Déjà, là, c'est plus difficile de le cataloguer républicain, mais je crois aussi que c'est parce qu'on analyse toujours ça à travers le prisme politique européen. Et puis, deuxième chose, il y a aussi le fait qu'il parle de ce début de carrière et il explique. Et pour lui, il explique que c'est un échec d'avoir eu à écrire tous ces scénarios et à se mettre en scène parce qu'il n'arrive pas, il n'arrivait pas à percer en tant qu'acteur.
Oui, c'est vrai. Il dit d'où son affection pour finalement l'échec, parce qu'il dit que c'est parfois l'échec qui permet de nous faire avancer dans la vie, et qu'il a toujours tenté en fait de jouer les premiers rôles dans les films, et il s'est toujours fait, il a jamais réussi à avoir un grand rôle. Et donc il s'est dit pour avoir un premier rôle, je vais me l'écrire. Et c'est pour ça qu'il a écrit le premier Rocky. Il s'est mis à une table et qu'il a commencé à écrire ce scénario. Finalement, s'il avait commencé à avoir du succès dans les castings, il n'aurait peut-être pas pris la peine de d'écrire ce scénario-là. Moi, j'ai lu pas mal d'interviews de lui où il disait que finalement, ce qui l'intéressait, c'était juste de voir l'homme qui essaie de trouver cette transcendance en lui-même, quoi, cette transcendance divine en lui-même, même si finalement, en sortant de tous les dogmes religieux, ce qui l'intéressait, c'était ça, la transcendance que l'homme peut avoir à essayer de se transcender, de faire quelque chose de bien dans sa vie, comme il dit, trouver la force de Dieu en soi-même.
C'est une belle formule qui le caractérise bien. D'ailleurs, là-dessus, parce que tu parlais de la période Brigitte Nielsen, du film de Cosmatos, par exemple, Cobra, qui, moi, je l'avoue, est un de mes péchés mignons. Hein, moi, j'aime bien. Hein, la justice s'arrête ici, c'est moi qui prends le relais. Pour moi, c'est une réplique culte, quoi. Mais bon, c'est vrai que le film est bien troussé, se revoit avec plaisir. Mais Mario Cobretti, c'est pas un personnage très stallonien, entre guillemets. Et Stallone, il disait qu'il avait, dans diverses interviews, qu'il avouait avoir pété les plombs à l'époque. C'est pour ça que je trouve que tu vas assez vite sur Rocky IV. Rocky IV est un peu plus difficile, je trouve, à défendre comme un film ambigu. C'est pas vraiment ambigu, c'est vraiment régagnien, je trouve, Rocky IV, comparé à Rambo 2 et tout, qui effectivement, l'interprétation, le fait de le voir comme un film régagnien, pour moi, est discutable. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans le bouquin, parce qu'il y a une grosse remise en cause quand même de la bureaucratie réganienne et tout ça dans le film. Mais par contre, dans Rocky IV, je trouve que là, il pète les plombs, quoi. Même si le film est une sorte de, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, film qui va vite, c'est tourné comme un clip, est une sorte de plaisir coupable. Mais Stallone reconnaît qu'après que Reagan lui ait dit que s'il avait été au Vietnam, en gros, ils auraient gagné la guerre, enfin, je schématise un peu, t'en parles dans le livre, ça lui a fait un peu péter les plombs quand même.
Ouais, c'est un film en fait où il a voulu, il était en pleine gloire et il a voulu simplifier au maximum, quoi. Et c'est vrai que bon, Rocky IV, le méchant russe est méchant. L'arrivée des Russes sur le territoire américain, c'est clairement la menace, etc. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'entraînement des deux boxeurs, quand Rocky va s'entraîner en Russie, c'est clairement le self-made man qui s'entraîne tout seul. Donc il y a le libre arbitre face aux soviétiques qui est encadré par des machines, donc qui est façonné. Donc c'est vrai que il y a clairement deux visions, deux idéologies qui sont mis face à face. Mais quand même, moi je trouve que dans Rocky IV, même si c'est vrai que c'est la période où Stallone pète complètement les plombs avec Brigitte Nielsen, il y a quand même des petites choses où on retrouve le Stallone qui a remis en cause le rêve américain. Je crois que j'en parle dans le livre quand il dit à Adrienne que finalement... la gloire, la villa, les voitures, l'argent, c'est tout et c'est rien. Donc il remet un petit peu ça en cause. Je trouve qu'aussi Apollo Creed, il représente bien les années Reagan, avant son combat où il fait le show, sûr de lui-même, etc. Et que finalement, c'est un peu le colosse au pied d'argile. Il se fait complètement avoir. Et dans le scénario original de Stallone, on se rend compte qu'il y avait un aspect très développé sur la Russie, sur les gens en Russie, quand il allait s'entraîner en Union soviétique. Il appréciait énormément la compagnie de ces gens-là. Il appréciait énormément leur force à affronter les difficultés de la vie. Et que c'était finalement en repartant en Union soviétique que Rocky se retrouvait lui-même. C'est-à-dire qu'en quittant l'Amérique de Reagan, le superficiel, l'argent, le luxe, il se retrouvait finalement véritablement là-bas. Donc on peut imaginer que Rocky, qui aurait combattu aux États-Unis, de Reagan, aurait peut-être perdu. Il a été obligé de partir là-bas pour se retrouver.
Perdu comme Apollo Creed a perdu d'ailleurs, jusque
voilà.
La vie d'ailleurs.
Donc bon, c'est une analyse un peu personnelle, mais voilà, j'ai quand même essayé de réhabiliter un petit peu ce film-là, même si c'est vrai que là, Stallone, il a manqué de finesse sur ce film-là, clairement.
Je te le dis, hein, parce que moi, je suis vraiment fan de Stallone. Hein. Je suis comme toi, je pense. Donc, bon, je trouve quand même que celui-là est un peu plus... Mais bon, néanmoins, tu me donnes envie de le revoir. Parce qu'effectivement, il y a cette partie où il se retrouve avec cet entraînement à la rue et tout ça, où il redevient lui-même le vrai Rocky. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un point de vue intéressant. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure... pour revenir, on était sur le fond du bouquin, mais aussi sur le fait que tu parlais de Norman Jewison. Là, tu parlais du scénario de Stallone. Bon, tu n'as pas pu avoir l'interview de Stallone, mais tu as eu quand même pas mal d'interviews, puis accès aussi à des documents qu'on ne connaît pas forcément. Tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça ?
Oui, bah, Stallone, j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois. Ça aurait été mon rêve de pouvoir l'interviewer. Mais son attaché de presse, Michel Vega, m'a toujours dit qu'il était trop occupé, soit il était sur le tournage du nouveau film de Walter Hill, soit il était en préparation d'Expendables 2, donc voilà, c'était impossible de l'avoir. Mais bon, comme je suis journaliste, j'ai des contacts et j'ai pas mal de gens qui m'ont donné des adresses à contacter. Et donc j'ai réussi à interviewer pas mal de collaborateurs de Stallone, Norman Jewison, Albert Magnoli, Paul Silbert... Martin Bork aussi, et ils ont tous répondu de manière très sympa par mail, donc il n'y a pas eu de problème. Et les documents, bah, ça a été beaucoup bibliothèque, commandes sur internet, j'ai commandé des livres aux États-Unis, j'ai eu accès à tous les numéros de Starfix qui ont beaucoup suivi Stallone, la carrière de Stallone dans les années 80. Donc c'était vraiment des documents précieux. Voilà, donc ça a été vraiment un travail de dénicher toutes les interviews qu'il me fallait. Et comme j'étais fan de cinéma, j'ai conservé pas mal de magazines que j'avais achetés durant mon adolescence. Donc ça a été aussi des documents très précieux quand je les ai relus.
Écoutez David Da Silva au micro de Culture Pro.
Et est-ce que tu as réussi à voir, parce que tu nous parles d'un film qui a éveillé ma curiosité quand j'ai lu ton livre, tu nous parles de Rhinestone, de Bob Clark de 1984, un film avec Dolly Parton. Et ça, moi, je connais pas du tout. Je pense, je sais pas, c'est jamais sorti sur le moindre support en France. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce film qui, du coup, fait un peu fantasmer tous les cinéphiles, parce qu'en plus, Bob Clark, c'est quand même un réalisateur très très intéressant.
Oui, bah c'est un film maudit, comme on dit. C'est un film où Bob Clark est arrivé en cours de tournage, parce que le réalisateur, premier réalisateur, a été renvoyé, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Et Stallone devait tourner Le Flic de Beverly Hills, le premier. Et finalement, il ne s'est pas entendu avec les producteurs, parce que les producteurs voulaient une comédie et Stallone voulait quelque chose de plus violent.
Il paraît d'ailleurs que...
Donc ça s'est pas fait. Donc il s'est tourné vers ce film-là. Et c'est une comédie musicale où un chauffeur de taxi va devenir un chanteur de country. Donc c'est un film spécial. Moi je l'ai vu il y a quelques années. C'est un film qui m'avait pas du tout marqué. J'avais trouvé ça... J'avais trouvé Stallone très mauvais... trop axé sur la comédie. Je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour la comédie pure. C'est quelqu'un qui est bien dans les comédies dramatiques, où il alterne un peu les genres. Là, il était vraiment que sur la comédie. Moi, je l'ai pas trouvé très bon. Et le film n'est pas sorti au cinéma en France. Il est sorti en cassette vidéo à l'époque. Et je ne crois pas qu'il est sorti en DVD depuis.
Et parce que c'est, oui, ça va devenir un incunable de la vidéo, du coup, que tout le monde va rechercher suite au livre, je pense. Mais oui, tu parlais là à l'instant, excuse-moi, parce que j'ai failli te couper, du coup, pendant que tu parlais de Rhinestone. Tu parlais de sa relation avec les producteurs. Visiblement, ce que j'ai cru comprendre en lisant ton livre, c'est que, parce que moi, je me fais une image d'un type très professionnel, hein, pour l'avoir vu dans des making-of, je suis frappé. Moi, je trouve que c'est un très bon réalisateur, très sous-estimé d'ailleurs, et c'est un vrai réalisateur, c'est-à-dire qu'il reste pas derrière le petit combo, il tient la caméra, tout ça, il change les objectifs, enfin, il est vraiment très très doué, et par ailleurs, ce que je crois comprendre dans ton livre, c'est que par contre, avec les producteurs, il est pas tendu du tout, c'est compliqué, visiblement.
Avec les producteurs et les réalisateurs aussi. Lorsque c'est pas lui qui réalise un film, apparemment c'est quelqu'un qui est très difficile avec le réalisateur. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est pour ça qu'il a jamais finalement travaillé avec de très grands réalisateurs. C'est parce que Stallone a une personnalité tellement forte qu'il pouvait pas travailler. Par exemple, il a eu deux projets de films avec William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, et ça s'est pas fait. Parce que les deux se sont chamaillés en pré-production. Stallone, en fait, il veut tout contrôler. Même lorsque c'est pas lui qui écrit le scénario ou qui réalise, qu'il est juste acteur, il s'immisce dans la réalisation, il réécrit le scénario. Moi, j'ai interviewé des collaborateurs, par exemple, du film Copland, et il m'a clairement dit que Stallone, il a retravaillé tout le temps son personnage. Même s'il n'est pas crédité au générique, c'est Stallone qui réécrit ses dialogues. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans son personnage, il l'aurait écrit complètement. Donc c'est quelqu'un, vu qu'il a eu son premier succès grâce à un film qu'il avait écrit, je pense que c'est quelqu'un qui considère qu'il a une vision de ce que peut être un succès, de ce que le public attend. Donc il hésite pas à vraiment prendre en main le projet.
Et d'ailleurs, il a bien fait de participer à l'écriture, parce que c'est un chef-d'œuvre quand même. Faut le dire, Copland, c'est un très grand film.
Oui, c'est un très très grand film. C'est une de ses meilleures interprétations. C'est un très beau film, très bien écrit, très bien réalisé. Stallone n'a pas à rougir de sa prestation face à Harvey Keitel ou Robert De Niro. Et d'ailleurs, c'est un film qui a fait beaucoup de mal à la carrière de Stallone, parce que Stallone attendait beaucoup de reconnaissance critique avec ce film. Je pense qu'il attendait une nomination aux Oscars. Il avait pris 20 kilos pour le rôle. C'était un rôle complètement à l'opposé de ce qu'il jouait à l'époque. Donc il attendait énormément de reconnaissance pour ce rôle-là. Et finalement, le film a eu pas beaucoup de succès. La critique a dit Stallone, belle interprétation, mais finalement, il a pas eu beaucoup de récompenses. Et il a fait une dépression après ce film-là, et c'est à partir de là qu'il a commencé sa traversée du désert, où il a fait quelques films qui n'ont pas marché, et, et où pendant une quinzaine d'années, finalement, Stallone s'est devenu un has-been à Hollywood.
Oui, carrément. Bah, d'ailleurs, quand il met en place Rocky VI, c'est le film, quelque part, c'est le film de la rédemption pour lui, parce qu'en fin de compte, personne n'y croit à son Rocky VI, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est, il a eu du mal à monter le projet. Personne ne croyait dans un Rocky VI. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire du film aussi, où personne ne croit qu'il peut faire un dernier petit combat. Et Stallone, donc, il s'est battu, il a écrit le scénario, il l'a réécrit plusieurs fois. Dans le premier, je crois qu'il y a une première version où il se battait pour sauver un gymnase, où il entraînait des enfants défavorisés, et où Adrienne était vivante. Et ensuite, il l'a complètement réécrit, où il a mis le deuil au centre de l'histoire. Et oui, il s'est battu, personne ne croyait en lui. Et finalement, ce que moi je pense, c'est que Stallone n'est jamais aussi bon que quand il est dans une situation d'échec finalement. C'est dans cette situation-là qu'il avait écrit le premier Rocky. Et c'est dans cette situation-là qu'il a écrit le sixième Rocky et le quatrième Rambo.
Le Rocky 6 qui est avec le premier, pour moi, je me demande même s'il n'est pas encore meilleur que le premier, quoi.
Il est très bon. Le défaut, c'est que la trame narrative, elle est un peu convenue, parce que quand on connaît le premier Rocky, on s'y attend peut-être un petit peu. C'est le défaut, en fait, du film.
Oui, oui.
C'est son seul défaut.
Oui,
c'est
voilà.
Que la trame, bon, elle est un petit peu... Mais sinon, au niveau visuel, le film est très bien réalisé. La photographie est très belle. Moi, je trouve que les personnages sont très bien écrits.
Ah,
même
magnifique.
Polly, qui n'a pas beaucoup de scènes, je trouve que c'est un personnage qui existe. Non, c'est très bien. Et surtout, Stallone montre quand même qu'il a plus de 60 ans. Il a une forme physique incroyable.
Oui, là, c'est même douteux. C'est même, je ne sais pas ce qu'il prend, parce que là, c'est impressionnant. Je le trouve encore plus balèze que dans le premier, en fait. Encore plus impressionnant physiquement. Donc, c'est vraiment assez phénoménal. Tu parlais de Copland à l'instant. On va revenir après sur John Rambo. Hein, je ne l'ai pas oublié, parce que pour moi, je considère que c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de toute ma vie. Et j'en ai vu un paxon pourtant. Mais tu parlais à l'instant de Copland, alors qui a entraîné sa dépression, et donc c'est un peu sa mise à l'écart, enfin, pas un peu, complètement sa mise à l'écart d'Hollywood. Et pourtant, en France, la réception critique en Europe a été très forte. Et c'est sans doute à partir de ce film qu'en France on prend Stallone au sérieux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en France on s'est dit, tiens, Stallone est capable de rivaliser avec De Niro et Harvey Keitel. Il est capable de faire un vrai rôle de composition. Donc on s'est dit, ah oui, Stallone, c'était pas l'homme que d'un seul film. Il est capable de vraiment livrer des belles prestations. Et c'est vrai que ce film-là, en Europe, a redonné un petit peu de crédit à Stallone. Même si le film n'a pas vraiment marché au box-office en Europe, mais d'un point de vue critique, c'est vrai que le film a été beaucoup mieux reçu en Europe qu'aux États-Unis.
De Rocky VI à l'instant, et de John Rambo, hein. C'est vrai que donc Rambo 4, enfin John Rambo, film complètement incroyable, enfin démentiel, et pour moi bien meilleur par exemple que Expendables dans sa réalisation et tout, enfin bon, film fort quoi, très fort. Par contre, il y a un truc que je m'explique pas, parce que ça par contre t'en parles pas dans le livre, c'est le remontage qui a été fait après. C'est vraiment du business, parce que je vois pas l'intérêt. En plus, ce director's cut, il enlève pour moi ce qui fait la force de Rambo 4, c'est-à-dire cette vision à la fois cynique et humaniste sur l'humanité.
Oui, le director's cut où il où finalement il enlève, c'est que quelques petits détails, mais qui changent un petit peu la portée du film, où finalement il nous montrait que John Rambo, il ne tuait ni pour le parti républicain ou démocrate, c'était finalement parce que l'être humain a cette part de chaos en lui, que dans une situation donnée, la barbarie ressort. Et c'est vrai que le director's cut, je l'ai vu et je préfère la version sale finalement. Mais John Rambo, c'est un film très réussi sur la barbarie. C'est un film très barbare et très réussi sur la barbarie. où il nous montre finalement un conflit qui n'est pas médiatisé dans le monde, le génocide du peuple Karen. Et finalement, moi je trouve qu'il a, il a parfaitement réussi son, son coup, quoi, parce que c'est un grand film d'action, et en même temps, il y a un vrai message humaniste qui est derrière. Et moi, quand j'avais vu le film en salle, j'avais été frappé par les images d'archives au début du film, quoi.
Tout à fait.
Quelque chose qui, je pense que ça marque les gens, et je pense que son message était vraiment bien passé.
Et la réalisation est époustouflante. D'un point de vue plastique, c'est un film superbe en plus.
C'est un film superbe, très violent. Je trouve que parfois il a peut-être été dans l'excès de gore, c'est-à-dire que le sang numérique, des fois, il est un peu trop, je trouve. Mais c'est un film où il y a des plans au début du film où il pêche avec son arc. C'est des plans qui sont magnifiques. Sur un coucher de soleil, sur son bateau. On retrouve là le Stallone peintre, c'est-à-dire que c'est des plans, on a l'impression que c'est des tableaux tellement ils sont réussis.
Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes, he's got high hopes, he's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Vous écoutez David Da Silva, auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, au micro de Culture Prohibée.
D'ailleurs, dans ce... Parce que là, c'est clairement un clin d'œil à son public, quoi. Je reviens comme Expandables, d'ailleurs. Et dans Rocky VI aussi, dont on parlait à l'instant, on voit aussi cette relation particulière avec le public. Je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais avec le public, c'est aussi dans le générique final, parce que j'avais oublié de t'en parler tout à l'heure, où on voit tous ces messieurs et messieurs, dames, tout le monde là, qui remontent les fameux escaliers de l'entraînement de Rocky. Je trouve ça très beau, à la limite presque très émouvant, d'ailleurs.
Oui, ça prouve l'impact du personnage dans le monde. C'est tout le monde. Je crois que c'est Stallone qui avait dit ça, que c'est impossible de combattre Dark Vador, etc. Enfin, de faire des choses dans des films de science-fiction, mais qu'en fait tout le monde peut être Rocky Balboa parce que c'est accessible à tous de monter les marches de Philadelphie et d'arriver en haut et de lever les bras. Donc, je pense que Stallone est très touché par la force de ce personnage qui a fait sa gloire et qui l'a aussi peut-être, selon lui, empêché de faire d'autres choses parce qu'il a été complètement bouffé par ce personnage-là. C'est-à-dire que dans la rue, on l'appelait Rocky, on l'appelait pas Stallone. Et souvent, il disait qu'il aimerait être aussi vertueux, avoir un aussi grand cœur que Rocky, mais que finalement il était que Sylvester Stallone et qu'il avait beaucoup plus de défauts.
Mais en même temps, je trouve que ce final, il montre aussi que Stallone, c'est un acteur qui a un rapport très particulier avec son public.
Oui, il est très...
Parce que ça, c'est un des thèmes de ton bouquin, quoi, public, vraiment.
Parce que même lui a su que c'est important d'avoir un modèle auquel on peut se raccrocher quand ça va pas. C'est-à-dire que lui, quand il était dans la pauvreté, il dit souvent qu'il a lu les livres d'Alan et Carpo pour s'aider à surmonter les épreuves de la vie. Et il a conscience que le personnage de Rocky est très important pour le public. Et c'est quelqu'un... moi, j'ai parlé avec pas mal de journalistes, tout le monde me disait que, par exemple, quand il était dans un festival, Stallone allait toujours voir les fans pour signer des autographes. Prendre des photos avec eux, alors que d'autres ne le faisaient pas. Donc oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un vrai rapport avec son public, même si ça l'a fait peur, parce que il a aussi toujours eu peur devant un tel engouement, parce que dans les années 80, Stallone, il pouvait pas sortir sans faire une émeute dans le monde. C'était vraiment la star mondiale. Et il a toujours eu peur, finalement, d'être tué par un fan, comme John Lennon, par exemple.
Oui, c'est rigolo, ça. J'ai lu ça dans ton bouquin, je ne savais pas du tout, parce qu'il a l'air tellement proche de son public, visiblement, oui, ça l'effrayait totalement, quoi. Il avait vraiment peur de ça, quoi.
Ouais, bah, c'était les émeutes, apparemment, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, la venue de Sylvester Stallone à Cannes en 89, je crois, c'était quelque chose, c'était du jamais vu. Enfin, c'était... il y avait eu une émeute, Stallone avait été obligé de sortir de la voiture, de se mettre sur le toit, et etc. C'était quelque chose d'incroyable. L'engouement du public pour Stallone, c'est quelque chose de phénoménal. Et on a vu pour Expendables que même en France, sa venue, ça a encore amené énormément de gens.
Et d'ailleurs, ce que tu abordes aussi dans ton livre, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est aussi le fait, moi j'ai été frappé, on en avait parlé dans notre émission d'ailleurs, du grand nombre de femmes dans la salle quand on avait été voir Expendables. Et Expendables, il y avait à la limite autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai qu'il a un public féminin très important, Stallone aussi. Pourtant, ce n'est pas le plus beau,
oui,
je veux dire, physiquement.
C'est la grande particularité de Stallone, c'est que le public féminin est en grande partie attiré par ces films, alors que c'est des films violents à la base, donc on est un peu surpris. C'est d'ailleurs la grande particularité de Stallone, et on voit que Van Damme a essayé au début de sa carrière de suivre ses traces en mettant beaucoup d'émotion dans ses personnages et en faisant pleurer ses personnages comme Stallone l'avait fait. Parce que la grande particularité de Stallone, c'est de montrer des durs qui pleurent dans ses films. Ce qui n'était pas le cas de Schwarzenegger ou Chuck Norris ou Steven Seagal ou même Charles Bronson, même si c'est pas vraiment dans le même créneau, mais les stars de films d'action en général, ils montrent pas de faiblesse. C'est la faiblesse des personnages de Stallone qui attire le public féminin.
Et d'ailleurs, bon, là, on parlait de public, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure de Copland, de l'accueil par la critique en France. Et puis j'avais envie un peu de conclure cette interview là-dessus. C'est une thèse que tu développes un petit peu dans ton livre. C'est effectivement le fait que, enfin bon, je sais pas parce qu'il est quand même déjà assez âgé, Stallone, mais quand on voit l'âge d'Eastwood, qui est très âgé et qui continue à faire d'excellents films, toi, tu te poses la question carrément de Stallone, est-ce qu'il pourrait, à la limite, pas devenir une sorte de nouveau Clint Eastwood à travers sa carrière de réalisateur ?
Ouais, c'était mon analyse, parce que j'ai constaté que Eastwood avait finalement les mêmes critiques pendant une grande partie de sa carrière, où on l'a traité de facho, de personnalité d'extrême droite, à cause des films de la série L'Inspecteur Harry, et que finalement, peu à peu, il a montré un visage humaniste, et maintenant, bon, il est considéré comme un des plus grands réalisateurs américains. Et je me demande, même si je compare pas le talent de Clint Eastwood à celui de Stallone, puisque c'est deux personnalités différentes, etc., mais que Stallone, finalement, d'un point de vue de la critique, il a un peu la même trajectoire, c'est-à-dire pendant les années 80, il a été qualifié de réganien. C'était quelqu'un, enfin, on le considérait, ses films, c'était considéré comme des films débiles. Il a eu sa marionnette au guignol. Et maintenant, depuis Copland, mais surtout depuis Rocky Balboa et John Rambo, la critique maintenant commence à voir Stallone d'un autre œil. En découvrant un auteur, quelqu'un d'intéressant, qui a une vraie sensibilité dans ses films. Et moi, je me mets à rêver que Stallone, s'il quittait un petit peu le créneau du film d'action et qu'il réalisait ses projets sur le génocide arménien et surtout sur Edgar Allan Poe, pourrait prouver qu'il est un auteur vraiment intéressant. Et moi, je pense que peut-être que mon premier livre sur Stallone, premier livre d'analyse intéressant sur Stallone, pourrait être le premier d'une longue lignée, comme on a vu fleurir énormément de livres sur Clint Eastwood depuis plusieurs années.
I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, and the last but not the least, Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop sundown. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice in me, rocky like Bad Boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from no quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must want a gang war. I got an old girl and a transporter. Trapping is a habit, I got Zans on me. I'm hotter than the flame, keep the fan on me. Catch me whipping the Mustang with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turn nothing into something, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I'm fighting every day, I won't get back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'd be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah.